le passage qu'on a d'aujourd'hui à propos de Jonas est un passage qui est très très contracté. Hein, parce que Jésus dit à Jonas, c'est la donne hein, qui a dit ça à Jonas, hein, c'est le Messie, va à travers la ville de Nénée et puis qu'il se convertisse, puis, parce que Nénive, sinon, sera détruite. Alors, nous, dans le texte d'aujourd'hui, on entend. Alors, aussitôt, Jonas partit à Nénive. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Hein. Il y a eu du grabuge à l'intérieur de ses entrailles, de son irascible. Ça, par exemple. Allez. Traverser cette espèce de cité puante de péché, alors vomissante de non, qu'ils soient exterminés, puis c'est tout. Qu'ils soient exterminés, puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Alors, aussitôt, il s'est levé, il est allé dans le sens inverse. Et dans le sens contraire, Nénive c'était là-bas, il est parti là-bas. Et si alors, donc, la donne lui dit une deuxième fois, dit, c'est pas la bonne direction, c'est Nénive. Alors il dit, oh, pas question, je veux pas y aller. Moi je veux pas y aller, je veux pas. Alors du coup il s'est retrouvé, il a continué encore plus loin, puis il s'est retrouvé en Phénicie, et puis, et là il s'est dit, ben. Il s'est dit, mais voilà, et c'est la mer, hein, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. C'est pour aller dans le sens inverse, c'est pour que je prenne un bateau. Il est monté dans un bateau et donc il est parti dans le sens inverse. Et une fois qu'il était dans le bateau, la donne a dit, même dans le bateau, ça a beaucoup de signification, vous savez tout ça. Mais quand ça a été l'heure de l'église, alors, hein, le bateau, il allait dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Hein. Incroyable. Alors, il y a une tempête. Lui, il s'est caché dans un tonneau de vide de rissage. Et une tempête, tout le monde. C'était des navigateurs. Ils avaient l'habitude. Ils savaient qu'une tempête comme ça, c'est pas normal. Ils savaient que les démons existent, les hydres de la mer. Il le savait, il dit, c'est pas possible. À cause de qui on va tous mourir, hein? Voilà. Donc on connaissait l'histoire, bien sûr. Et puis finalement, il découvre qu'il est caché là au fond des cales. Et pendant que lui, il préfère mourir, couler, plutôt que d'aller... faire ce que Dieu demande à l'Église. Il reste dans sa colère un peu, même beaucoup. Et on le découvre, et alors il dit, mais ça va, c'est vrai, c'est à cause de moi. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, arrête, tu nous casses. Ben, jetez-moi à la mer et on n'en parle plus. Hein? Jetez-moi hors du bateau. Alors il le jette hors du bateau, et c'est là qu'arrive la baleine. Ah, oh, ça me fait bien ça. C'est là qu'arrive la baleine. Énorme poisson. Un énorme pichou. Comme disent les Catalans. Une énorme pichou. Il se retrouve à l'intérieur du poisson énorme. C'est beau ça, hein, savoir que quand on communie, on est jeté hors de l'Église et on fait partie du corps mystique de la Jérusalem dernière. On est à l'intérieur de la baleine. Et on porte, au fond, on est porté, en fait. On est porté. Et c'est le corps mystique de l'Église qui va dans la bonne direction. L'Église ne sert à rien si elle ne nous permet pas d'être jetés, si je puis dire, hors d'elle-même, dans le corps mystique de l'Église, c'est-à-dire la transverbération, l'union hypostatique des serrés. Voilà, et là, ça rentre à l'intérieur de ce royaume. On va dans la bonne direction. Et alors là, du coup, ben, bien sûr, vous savez, tout le monde connaît l'histoire. Et Jonas a débarqué sur la terre. Et puis il a été sur Ninive, mais encore, il n'était pas content. Hein. Il n'est toujours pas content. C'est la vie chrétienne, c'est de la purification, mais continuellement. Hein. Purification. Il n'était toujours pas content, alors il a quand même fait quelques kilomètres, il a été jusqu'à Ninive. C'était grand Ninive. C'était plus grand que Paris. Hein. Paris, il ne faut pas 3 jours pour traverser Paris. Moi, j'ai traversé Paris. Je sais pas, une centaine de fois, parce que mon père spirituel m'avait dit, le week-end, tu enlèves tes habits d'apparat, et puis tu vas pieds nus et tu traverses Paris. Et tu demandes du pain au nom, par amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous êtes sûr que c'est ça que... Ben oui, tu fais ça. Ah, c'était mon père spirituel, donc j'ai fait ça. Donc je traversais Paris. Donc je sais ce que c'est que traverser une ville qui fait 3 jours de marche. Bon, 3 jours de marche. Alors je faisais ça tous les week-ends, pendant, je sais pas, un an. Et donc il a traversé Ninive, il a traversé cette grande ville, il n'a rien dit, il a attendu un petit peu, je veux dire, pour parler, il a parlé dans un autre endroit, je crois qu'il a parlé une demi-heure, je vois, dans notre passage, juste un petit peu, et certainement pas en criant, hein. Non, attention, je proclame que... Non, voilà, je le fais... Mais dans un souffle. Hein. Mais seulement, malheureusement, il y a eu des gens qui ont entendu. Des gens qui ont entendu. Alors, ça c'est... Le royaume de Dieu est arrivé. Convertissez-vous. Et c'est venu, les gens, c'est venu au roi, c'est venu, c'est pas ça. Ça c'est... Et du coup, ben, ils se sont fait pénitence. Ils ont demandé pardon. Et Jésus dit, il y a ici. En vérité, je vous le dis, il y a ici. Plus que Jonas. Convertissez-vous. C'est très fort, je trouve, moi. Il y a ici plus que Jonas. Alors, on sait qu'on n'est pas loin. On sait qu'on est arrivé, ça y est, pendant 40 jours. Encore 40 jours. Et la cité du péché sera totalement détruite. Dans 40 jours. Mais 40 jours, sauf erreur de ma part, hein, c'est vers... le 20 février, quoi. Quelque chose comme ça. Non, peut-être plus, je sais pas calculer. Il faudrait faire le calcul. Mais on a 40 jours devant nous, hein, d'ici début du carême. Et on est certainement dans une année... eschatologique. Le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est tout proche. Et Jésus va nous appeler. Jésus va nous appeler. Jésus nous appelle. Jésus nous prépare à l'appeler. Déjà, on l'a suivi. C'est vrai, on l'a suivi. Mais, et puis, on a été aux noces de Cana. On a changé notre cœur. On a laissé le cœur du Christ battre à la place de notre cœur. On a été, oui, jusqu'à Nazareth. On est revenu à la maison. On a participé au baptême de Jean-Baptiste. On a vu les foules venir. On a vu des millions de gens venir vers Jean-Baptiste. On a vu Jésus déjà marcher. On a marché déjà avec lui. Il ne faisait rien de spécial. Il ne faisait pas de miracle. Sauf qu'il a changé notre cœur. Il a changé l'eau en vin. Il a fait en sorte qu'on puisse aller de notre cœur jusqu'au cœur de Marie, et du cœur de Marie et de notre cœur jusqu'au cœur de Jésus. Et il y a quelque chose qui dans notre poitrine bat, parce que il y a une bénédiction, c'était la bénédiction qui était à l'intérieur d'Adam et qui a permis la production de l'épousée et de la sponsalité dans la terre de la création. Et ça, ce petit germe-là, il est au fond de nous. Voilà. Et Jésus, à un moment donné, on est reparti sur la mer de Galilée. On a continué notre travail, gentiment, paisiblement. Mais quelque chose avait changé quand même. C'est curieux, la première année de Jésus. La première année. La première année de Jésus, dans ces 3 ans et demi, là, après la mort de Joseph. C'est une première année qui est sans événement autre que ce que je viens de dire. Et puis, Saint Jean-Baptiste est assassiné. Le baptiseur. Alors du coup, Jésus, il part aussitôt. Il quitte Nazareth. Il requitte une deuxième fois Nazareth. Il va au bord du lac. Et c'est là qu'il retrouve des disciples qu'il avait déjà, on le sait. Ça, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint-Marc. C'est le premier chapitre de l'évangile de Saint-Marc. Mais on ne sait pas les autres chapitres que, bien sûr, les apôtres, ils les avaient déjà vus, ils avaient marché avec lui, et ils l'avaient suivi, ils avaient vu ça. Ils s'étaient laissés réconfortés, transformés. Ils étaient passés par une purification, c'est sûr, une purification intérieure, une préparation miséricordieuse. Le royaume de Dieu, il rentrait dans le fond et dans l'efficacité lumineuse du baptême de Jean-Baptiste, mais à partir de la bouche du cœur de Jésus. Voilà, et donc Jésus y va, on vient de lire l'évangile d'aujourd'hui. Voilà, très bien. Et il les appelle, et aussitôt. Mais ça n'a pas duré une seconde. Aussitôt, il laisse les filets et il suit. Et le premier à suivre Jésus, c'est Pierre. Après la mort de Jean-Baptiste, Pierre et André. Le premier. Et puis après, bien sûr, il y en a. Et Jacques. Et aussitôt, il suit Jésus, à partir de là, il continue, ça se passe épisodiquement d'ailleurs, à baptiser les gens à la manière de Jean-Baptiste. Il a continué avec eux, mais cette fois-ci, à partir de ce moment-là, il a commencé à faire des miracles et à proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle. Col, mes vassards. Col, levez-vous. Mes vassards, la bonne nouvelle. l'évangile d'aujourd'hui. Il faut proclamer la bonne nouvelle. Levez-vous. Levez-vous. C'est plus que. Il y a ici plus que Jonas. Lorsqu'elle est détruite, voyez, lorsqu'elle est décapitée, la volonté de Dieu, du baptême, de tous les enfants de la terre, et surtout de tout, et surtout les petits, les pauvres, les plus petits, les tout plus petits, lorsqu'elle est décapitée, hein, alors à ce moment-là, les événements vont commencer. Et on le sait bien, on le sait bien que c'est à l'intérieur du corps mystique, c'est à l'intérieur de la baleine, à l'intérieur du poisson, du Saint des Saints, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui fait palpiter la matière vivante de la résurrection, qui descend jusqu'à nous. C'est à l'intérieur de cette Jérusalem que nous pouvons proclamer le baptême et puis trouver de quoi nous lever, de ressusciter avec le Christ, de rentrer dans le corps spirituel venu de la Sainte Famille glorieuse. Et l'Église de Jésus. On dit toujours, l'Église est une sainte catholique apostolique. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est l'Église du ciel. Il y a trois parties, on dit toujours trois parties dans l'Église, mais il y a une seule nature dans l'Église. En trois hypostases, mais les trois se mélangent les unes aux autres, de manière à faire une seule respiration, une seule lumière, née de la lumière, une seule émanation, une seule résurrection. Alors il y a l'Église de la résurrection. L'Église des saints, quoi. L'Église, ceux qui sont dans la vision béatifique et qui se mêlent continuellement à l'Église qui non seulement est dans la vision béatifique, mais en plus est dans la gloire de l'Anastase, la résurrection de la chair, et qui produit par fécondité, par surabondance, qui produit le corps spirituel venu de la Sainte Famille glorieuse, qui produit physiquement une terre nouvelle, un engendrement du corps spirituel engendré par Marie, d'une manière substantielle, dans l'acte pur du fruit et de la présence réelle de l'Eucharistie. Il y a Marie et Joseph et Dieu, le Christ ressuscité, et Saint Jean, le prêtre. Ces trois, ces quatre ressuscités, il y a l'Église au fond du ciel. Elle est sur l'autel sur lequel nous nous introduisons, parce que nous ne sommes l'Église de la terre, nous ne sommes pas ressuscités, et nous sommes l'Église militante. C'est l'Église militante, c'est un peu l'Église qui va dans le sens contraire. C'est pas un mystère, ça. Que l'Église militante, elle va toujours dans le sens contraire, elle fait comme Jonas. C'est normal, parce que elle est dans plein méchaume, la pauvre. Mais elle est touchante, quand même. Parce que ils réparent leurs filets, ils jettent des poissons, ils travaillent à contre-courant. Mais elle est touchante quand même, l'Église de Pierre, l'Église de Jean, l'Église de Jacques, l'Église de la Terre, l'Église militante, l'Église des sacrements. Et l'Église des sacrements, l'Église de la première communion. Ça va toujours dans le sens où il ne faut pas, quoi. Quand même, enfin voilà. Mais l'Église des sacrements, l'Église de l'absolution, l'Église du baptême, et voilà. Et puis il y a l'Église souffrante, l'Église qui est, il y a, risques et ils sont des, un nombre incroyable, incroyable. Et Jésus dit, levez-vous. Comme nous sommes le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité. Et dans cette phrase, il y a l'appel à nous engloutir et à être investis et à être imbibés de l'Église glorieuse, de l'Église souffrante et de l'Église militante dans les entrailles du Saint des Saints, de la paternité vivante de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous dites que l'Église est uniquement l'Église de la terre, eh ben, je m'excuse, mais vous êtes les plus malheureux des hommes. L'Église, c'est pas ça. L'Église, elle est une immaculation, une illumination, une purification de la création tout entière. C'est l'Église souffrante, ça. Et on dans notre prière, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre intériorité qui a la même vastitude que celle de l'Église. Lorsqu'elle s'unit, l'Église militante, lorsqu'elle s'immaculise, lorsqu'elle immaculise la création tout entière, elle le fait à chaque sacrement. Mais je peux faire comme Jonas, ne pas y aller là-dedans. Et continuer à voir les choses à ma manière, à moi, d'une manière terrestre de vivre de l'Église, d'une manière terrestre, une manière qui est contraire, enfin, qui va dans le sens contraire. Mais il y a aussi quelque chose qui fait que on est l'Église des sacrements, et donc, comme on est l'Église des sacrements, on est l'Église militante, on va peut-être dans le sens contraire, on va peut-être dans le sens contraire la plupart du temps, mais on va dans le sens contraire parce qu'on ne fait pas produire au sacrement leurs fruits, qui sont en avant de nous. Parce que c'est quand même l'Église militante qui fait pousser la sève, qui fait bourgeonner, qui fait fleurir, qui fait produire son fruit, et qui fait que ce fruit donne une puissance à toutes les qualités de à toutes les qualités, tous les attributs divins à l'intérieur de l'être humain. L'humilité. L'humilité substantielle de l'Église. La virginité substantielle de l'Église. La pureté substantielle de l'Église. Elle est dans ce passage des sacrements, à l'éclatement des sacrements, décapité, si je puis dire, dévasté pour produire un fruit, celui qu'on trouve dans l'Église glorieuse. Et les trois se mélangent, debout, colle, mais va ça, la bonne nouvelle, proclamez-la. Alors quand l'Église, elle unifie, dans le miracle des trois éléments, ces trois dimensions de fécondité lumineuse, d'immaculation, cette fécondité de sanctification, parce que dès qu'on rentre dans l'Église militante, on est appelé par Dieu à engendrer dans tous les hommes la grâce de l'éternité et du salut. C'est un pouvoir qui est donné à l'Église des apôtres, à l'Église des sacrements. Même si elle va dans le sens contraire, elle a toujours ce pouvoir de faire rentrer tous les hommes, n'importe quel homme, n'importe quel, et la nature humaine tout entière, à l'intérieur de l'éternité. Plongé dans la grâce sanctifiante, par la grâce incréée du feu qui émane de l'Immaculée Conception de Saint Jean et de Saint Joseph au moment de la première Pentecôte qui a duré 36 heures, faire passer de la croix à la croix glorieuse l'ensemble de l'humanité des enfants de la terre. C'est au pouvoir de l'Église, la sanctification du monde. C'est une sanctification qui opère par à la foi, par l'espérance, par la charité et par la présence effective. Toutes les relations sont rétablies entre le Père et l'Esprit Saint à travers nous, entre l'Esprit Saint et le Père. Toutes les relations sont rétablies entre le ciel intime de Dieu et là et nous. Il y a l'Immaculation qui réalise dans l'Église le parcours qui permet au Père et au Fils à travers nous dans l'Esprit Saint qu'il n'y ait plus aucun espace, aucune distance. Alors nous vivons du Père, nous vivons du Fils, nous vivons du Saint-Esprit, nous vivons du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever pour proclamer la bonne nouvelle. Il n'y a plus aucune distance entre Dieu et nous. La miséricorde est là. La miséricorde est substantielle. La miséricorde est réelle. La miséricorde est incarnée. La miséricorde est invinciblement. Elle atteint toutes les limites. Elle vainc tous les obstacles. Elle est capable de détruire le mal partout. Elle dénoue le péché. Elle proclame non seulement une conversion, mais elle proclame la victoire du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et du corps mystique de l'Église tout entière sur tout le mal qui est dans le monde. Et l'Église glorieuse, du coup, eh ben, c'est-à-dire Marie, Joseph, ressuscité d'entre les morts, dans la lumière de gloire de la vision béatifique. Yohanan ben Zebeta, ressuscité entre les morts dans la lumière de la vision béatifique, dans la chair sacerdotale victimale éternelle, fait le flux et le reflux, sans aucune obstacle, continuellement, dans l'humanité ressuscitée de Jésus, dans l'anastase, cette espèce d'extraordinaire arche d'alliance de l'anastase, qui est une fécondité de Dieu, qui est une fécondité, une fécondité du Père, qui est une fécondité du Fils unique de Dieu, à travers la résurrection de la chair de la Sainte Famille, et vient s'écouler à l'intérieur du poisson, à l'intérieur du corps mystique de Christ, vient s'écouler à l'intérieur de la terre. Le réengendrement de la terre se fait par la Sainte Famille ressuscitée. Jésus, Marie, Joseph, le mariage ressuscité, l'au-delà de la sponsorité glorifiée, confondu au sacerdoce victimal et éternel, se met comme ça, là, est établie à l'intérieur de l'unité de l'Église. Elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique. Elle est glorieuse. Et de passer de l'un à l'autre, c'est beau, de passer de la terre au bateau, de passer de la terre à l'Église. De passer de l'Église au corps mystique, de passer du corps mystique du corps mystique de la baleine, quoi. Et de passer, et puis ensuite d'aller, ce parcours de l'Église est quand même prodigieux. Mais il trouve son secret, son sceau dans l'unité de l'Église. L'Église, elle est une. Elle est parfaite, elle est immaculée, elle est sainte, elle vient d'en haut, elle vient du Saint des Saints d'en bas, de la production de l'épousée, elle vient de la croix glorieuse, Elle vient du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle est annoncée. Et il faut aller vers tous les hommes. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est vrai. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on fait. Et le monde, on peut dire le monde, c'est une horreur, tout ce que tu veux. Mais Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Il a donné tout lui-même. Et il est passé à travers chaque. Il ne cesse de le faire à travers nous aussi. Il cesse de passer à travers le corps, le cœur, le son, les aspirations, l'âme, la conception de chaque être humain, des temps passés, des temps présents, des temps futurs, à travers le pouvoir de l'Église, à travers la mission de l'Église. C'est notre mission et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On apprend de plus en plus ça, que l'amour fait que on est comme projeté à l'intérieur de la nature humaine tout entière. Projeté à l'intérieur de l'âme ouverte, immaculée, parce que toutes les âmes sont immaculées dans leur conception à cause de l'immaculée conception. Et à cause de cet écoulement continuel de la Sainte Famille Glorieuse, faisant écouler le corps spirituel venu d'en haut, dans la constitution du patrimoine génétique, de l'Église, de la parousie. L'Église inocule, fait pénétrer la bonne nouvelle, c'est-à-dire la réalité vivante du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans toutes les âmes humaines, mais aussi. Elle crée, elle est l'instrument par lequel tous les êtres humains trouvent en eux, vont trouver en eux la semence, la première palpitation, l'incarnation de leur résurrection dans la chair pour les noces de l'agneau, pour que l'Église soit tout à fait elle-même immaculée, sans aucune tache, sans aucune ride, sainte, pure, accomplie, tout à fait elle-même dans le flux et le reflux du ciel intérieur du Saint-Esprit et des profondeurs du Saint-Esprit, de la paternité. Toutes les relations entre le Père et le Saint-Esprit traversent la création tout entière. Elles sont toutes rétablies. Elles sont toutes rétablies en raison de la mission de l'Église. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, ben, c'est nous. Alors, bien sûr, dès que tu vois quelqu'un qui fait partie de l'Église, par exemple, quand je te vois, toi, il y a ici plus que j'en ai assez. C'est l'Évangile, ça. Avant Jésus, avant le Christ, Moïse, tout ça, c'était pas le cas. Tandis que cette année, c'est différent. Cette année, je vous cache pas que je les compte, là, les 40 jours à partir de... Je vais les compter, moi, les 40 jours qui viennent. Pas seulement pour l'histoire de les compter, c'est pas pour ça, c'est parce que je veux dire, je sais, parce qu'on est prêtre, prophète et roi, hein? Par le baptême, on est prêtre, par la confirmation aussi, on est prêtre, prophète et roi, par la confirmation. Et donc, on est prophète, donc on sait que le temps est arrivé. Le temps du passage du poisson à la terre ferme. On est là. On s'y dispose. Et il y a des transformations, même corporelles. Hein. Il y a des transformations biologiques, c'est sûr. Il y a des transformations de puissance, d'unité et de fécondité vis-à-vis de la création tout entière. Il y a des transformations en nous qui font qu'on peut dire que l'heure est arrivée. Nous sommes prophètes. Et comme nous sommes prophètes, nous savons que les temps sont arrivés. On peut le voir, on sait dans quel temps nous sommes. Personnellement, je voudrais dire à Jésus que je l'aime. Je voudrais tellement pouvoir entendre Jésus à l'intérieur du Père choisir mon cœur pour pouvoir lui dire l'amour qui est le sien. Je voudrais que dans mon âme il y ait toute la place pour la présence de Marie dans son Immaculée Conception pour dire je me lève, voici j'existe pour dire je t'aime au Saint-Esprit. Et, mais jusqu'au fond de elle-même et jusque à l'au-delà de toutes les frontières d'éternité, je voudrais être choisi aussi pour que mon corps devienne la matière vivante de la paternité de Dieu. Moi, je voudrais dire. Je voudrais qu'à l'intérieur de moi, Jésus puisse dire « Je t'aime, au Saint-Esprit, à sa manière, à lui. » Et je voudrais qu'il y ait la grâce de l'union parfaite à l'intérieur de moi. Je voudrais que mon sang soit transformé, soit ce feu. Rempli d'amour continuellement, chaque instant présent, jusqu'à l'avènement de la parousie. Je voudrais être un membre vivant de Jésus vivant, et Jésus vivant et entier. Je voudrais que Dieu se lève, que toutes les portes s'ouvrent, et que le flux et le reflux se fassent. Et fasse disparaître tout le mal de la terre. Je voudrais voir, assister à ce spectacle d'amour, de lumière, de la grâce, de la parousie, c'est-à-dire de la Jérusalem, de l'Église telle qu'elle est véritablement, d'où elle vient véritablement, et ce qu'elle est dans son accomplissement véritable. La grâce qui est donnée dans l'Église de la parousie, la grâce des secrets de Marie et de Joseph. Cette année, c'est une année verticale. La fécondité de Marie dans l'Eucharistie, est en train de s'engendrer mille fois. De l'Immaculée Conception, dans sa transsubstantiation, sa multiplication transsubstantielle de la nature divine, de la spensabilité incréée de Dieu, se renouvelle jusqu'au fond et à la racine de tout nous-mêmes. Et de cette immaculée conception du corps mystique de l'Église tout entière, de l'unité de l'Église glorieuse, souffrante et militante, comme dit le Père Ollier, inspirator, spire de l'intérieur, l'engloutissement du monde angélique devant l'admiration du miracle des trois éléments qui s'y opèrent. Et Saint Joseph est le règne du Père glorieux, du Père de la gloire, du Père de l'Anastase, du Père de l'épousée, le royaume du Père de Saint-Joseph glorieux et de la Sainte Famille se répand avec une source infatigable, inépuisable, invincible, éternelle, effective, substantielle dans l'acte pur d'Immaculée Conception qui veut jaillir le règne et le royaume de Saint-Joseph sur la terre en raison du pouvoir qui est donné à l'Église dans le fruit des sacrements et dans l'infaillibilité de l'Église. Et cette annonce-là qui est faite à la terre, elle a été faite quand? Le 8 décembre dernier. Jamais cette annonce-là n'avait été faite pour qu'elle soit effective, infaillible, invincible. C'est cette année, hein. Nous vivons des temps et il faut y être attentif, vous comprenez, parce que on est tellement tenté d'aller regarder ailleurs, de regarder si c'est... Non. Là, l'évangile est annoncé. Levez-vous, c'est l'heure. Col debout, les pauvres, les chastes, les humbles, les embrassés d'amour. Mais voici la bonne nouvelle. Elle doit être entendue maintenant partout. Vais au maire proclamer dans tout l'univers. Voilà, et donc on peut demander à la messe d'aujourd'hui, si vous voulez bien, on demande que cette grâce-là du Père et du Fils, du Saint-Esprit, dans toute leur vastitude, dans toute leur substance, dans toute leur hypostase, dans tous leurs secrets intérieurs, se déploie à l'intérieur de notre cœur, de notre cœur, de notre cerf, qui se déploie, et qu'on dise tout de suite, nous quittons nos filets. Et nous suivons ce mouvement du passage de l'Église catholique dans son accomplissement à la Jérusalem nouvelle. À la Jérusalem véritable, à la Jérusalem nouvelle. La grâce de la part aussi, la grâce de la venue intermédiaire, la grâce du véritable Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Que si on la demande, elle nous est donnée. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Si on la demande, Jésus, la grâce, cette grâce-là, il faut faire un acte d'espérance en disant, cette grâce-là, je la reçois et qu'elle se déploie. Je la reçois et qu'elle s'épanouisse. Je la reçois, cette grâce de la part aussi, cette grâce de la venue intermédiaire, c'est-à-dire cette grâce de cette course effroyable pour les démons du 5e au 6e sur l'Apocalypse. Le royaume du Sacré-Cœur de Jésus-Marie-Joseph, qui est en même temps sponsor et sacerdotal, victime à l'éternel d'amour, a ouvert ses portes. Et moi, personnellement, je me trompe peut-être, parce que je ne suis pas prophète. Si, enfin, je veux dire, on est forcément prophète, puisqu'on est baptisé, mais moi, personnellement, je pense qu'on va assister à la conversion du monde entier.